Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous lirons dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 14. Évangile de Luc au chapitre 14. Encore un de ces sermons de Jésus, encore une de ces paraboles. Jésus n'a jamais essayé de faire de beaux discours avec des tels qu'un orateur fameux peut le faire, des recherches de langage, non. Il parlait, il racontait des histoires, mais des histoires qui étaient plus que des histoires, qui étaient toute une étude biblique, tout un enseignement, quelque chose que l'homme naturel ne peut comprendre, mais qui s'adresse à l'homme spirituel, quelque chose qui dépasse la philosophie des hommes, qui dépasse l'intelligence, mais qui, par la vertu du Saint-Esprit, révèle la pensée de Dieu, pensée tellement profonde et vivante. Ses discours déconcertaient les sages, mais étaient lumière, nourriture et vie pour ceux auxquels cette parole procurait ce qu'ils cherchaient. Tu cherches, tu trouveras. Celui qui cherche, trouvera. Tu demandes, tu recevras. Les vraies valeurs ne sont pas ici-bas sur cette terre, mais les valeurs sont cachées en Dieu. En ton Créateur, pourquoi chercher ailleurs qu'en lui? Il a toutes les sources de l'eau de la vie. Il se révèle à quiconque le cherche avec sincérité, car voici, il n'est pas loin. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. » À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies. Contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Qu'avons-nous compris de cette histoire? Qu'avons-nous saisi de cette parabole? Bien souvent, nous lisons ces paraboles et ces récits de la Bible sans même chercher le secours du Saint-Esprit ou sans même essayer de nous arrêter quelque peu pour les sonder. Oh, je le sais moi-même. Qui connais pourtant le Seigneur depuis longtemps. Combien de fois dans ma vie j'ai lu ces histoires sans jamais les sonder véritablement. Vous savez que la croissance spirituelle est un processus qui, certaines fois, est très lent chez certains individus. Je ne crois pas que j'ai été un des plus rapides à apprendre. Et ma prière est celle-ci, alors que les années passent et que mes cheveux blanchissent. Seigneur, aide-moi à apprendre, je suis si lent à apprendre. Je voudrais connaître les vérités du royaume, je voudrais communiquer ces vérités. Si je ne puis les comprendre, comment puis-je les communiquer? Seigneur, une parole qui touchera la conscience et les cœurs, une parole qui viendra non pas de moi, mais qui viendra de toi. Seigneur, Seigneur, que le peu de temps qui me reste encore puisse être un temps dans lequel je puisse instruire les autres. J'ai été si lent à apprendre, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de faire plus de progrès. Bien souvent, nous lisons cette parole d'une façon superficielle, alors qu'elle a tant de richesses, tant de richesses. Ces derniers jours, j'étais particulièrement inspiré par la lecture de ces anciens héros de la foi. Un livre, ce sont des histoires que j'ai déjà lues plusieurs fois, mais que je jouis à relire encore. Tous ces héros de la foi qui se sont levés pour défendre la vérité. Et leur point capital, c'était la parole, la parole, la parole. Je viens de relire les histoires de Jean Hus, de Jérôme de Prague, martyrisés à cause de leur foi, de leur courage. J'ai relu encore l'histoire de Luther et de Zwingli et de tant d'autres qui, dans le passé, ont payé leur foi de leur vie, leur foi dans la parole, et ceci m'a inspiré tout à nouveau. Seigneur, donne-moi d'être mieux encore fondé sur ta parole et de pouvoir la communiquer aux autres. L'expérience des héros du passé ne peuvent que nous inspirer. L'expérience des héros du passé ne peuvent que nous pousser de l'avant à proclamer avec courage et foi ce que nous croyons. Et ce que nous croyons n'est pas une doctrine basée sur l'intelligence humaine, sur une philosophie dite chrétienne. Elle est basée sur une parole immuable, hein, immuable, qui ne peut bouger en rocher, en roc, inébranlable. Les vagues de toutes sortes d'enseignements l'assaillent. À notre époque encore, si cela a été dans le passé, cela sera encore. Des vagues de l'océan de boue de ce monde qui cherchent à ébranler la vraie foi fondée sur les Écritures. L'assaillent et l'assailleront encore, mais nous savons que rien n'ébranlera ce rocher des âges. Basez votre foi sur la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Pensez la parole de Dieu. Cherchez à lire des ouvrages qui vous édifient par les héros du passé. Car ils ont vaincu, et nous vaincrons. Nous, chrétiens des derniers temps, assaillis par toutes sortes de philosophies et d'enseignements, par toutes sortes de doctrines, par toutes sortes d'élucubrations humaines. Frères et sœurs, il est temps de savoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. Et être prêts, alors, à défendre notre foi, serait-ce même sur l'échafaud. Qui sait si un jour, nous ne devrons pas encore donner nos vies comme ceux dans le passé pour ce que nous croyons. Jésus, aide-nous à comprendre, aide-nous à saisir ces vérités, à nous en pénétrer, et donne-nous l'habilité de pouvoir les communiquer. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous d'être ambitieux pour le royaume des cieux, d'être ambitieux de pouvoir apporter ce message aux autres. Garde-nous de la satisfaction personnelle. Garde-nous de penser que nous sommes si excellents. Lorsque nous voyons ton image, lorsque nous voyons ta personne, lorsque nous te voyons à l'œuvre, nous sentons la différence qu'il y a. Et nous sommes humiliés à tes pieds, nous te disons, Seigneur, aide-nous à parvenir à ton image, à ta ressemblance. Car ce qui pourra changer l'homme, le monde, la société, c'est la personne même de Jésus-Christ. Et cette personne de Jésus-Christ doit se manifester à travers ceux qui croient en lui et qui le servent. Enflamme nos cœurs, ô Dieu. Nous avons ici une simple histoire, mais une histoire merveilleuse. Nous avons Jésus ici, nous voyons Jésus ici, qui prend un repas avec des dignitaires du judaïsme. C'était un jour de sabbat, et selon la coutume d'alors, le jour du sabbat, bien souvent on invitait des gens à sa table. On invitait aussi ceux qui étaient plus ou moins en vue dans la société, et Jésus certes est en vue. Pensez donc, Il provoque toutes sortes de polémiques sur son passage. Son enseignement est nouveau, tout en étant ancien. Mais disons que c'est une nouvelle dimension que les hommes n'ont pas saisie encore. Jésus, il parle avec autorité. Regardez les miracles qu'il fait. Les miracles qu'il fait. Si Dieu n'était avec lui, jamais il ne pourrait faire de telles choses. Et alors, il y a des sceptiques, il y a des incrédules, il y en a d'autres qui croient, il y en a d'autres qui rejettent. Et c'est un tiraillement de tous les côtés. Et Jésus est là, invité, en ce jour de sabbat, à la table du pharisien, probablement de Simon le pharisien. Et la conversation est animée autour de la table. Chaque fois qu'il y a de telles rencontres, tous ces hommes religieux, bien fondés sur les Écritures, les écrits des prophètes, les écrits de Moïse, s'entretiennent ainsi des choses du royaume des cieux. La conversation est animée, elle est centrée sur des sujets qui ont affaire avec la vie et la marche avec Dieu. C'est merveilleux. Lorsque le cœur est rempli des choses de Dieu, il ne peut qu'exprimer ces choses-là. Lorsque nous sommes quelque part dans le monde, nous pouvons parler un peu des choses qui se passent autour de nous, nous entretenir d'une certaine façon des événements et de l'actualité, c'est vrai, mais automatiquement nous retombons toujours dans cette voie des choses de la vie éternelle, car il y a un rapport dans les événements actuels et dans les événements futurs, et la parole de Dieu. Essayez, mes frères, de ne pas seulement considérer ce qui se passe dans le monde physique, dans le monde politique, dans le monde des affaires. Essayez de ne pas considérer seulement ces choses-là, mais de les mettre toujours en parallèle avec la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous parle de toutes ces choses-là. De toutes ces choses. Jésus était là. Et la conversation allait bon train. Devant eux, en ce jour de sabbat, il y a un homme malade. À toutes les occasions, lorsqu'il y avait un tel repas, les portes n'étaient pas fermées, les gens avaient la liberté de venir, et ils s'asseyaient tout autour. Ils n'étaient pas autorisés à prendre la parole. C'était seulement ceux qui étaient là à table, les invités. Mais les gens aimaient venir pour écouter ce qui se disait, pour ainsi apprendre et apprendre encore. Que Dieu nous aide à être des ambitieux pour apprendre. La vie ne suffit pas pour apprendre. Nous sommes toujours à l'école. Nous devons être toujours des élèves studieux, cherchant à connaître et à connaître encore, à connaître les uns par les autres et à connaître à travers la parole de Dieu et à connaître à travers les choses qui sont dans notre environnement, dans la nature, dans tous les livres qui sont bons et honorables. Je vous encourage à chercher à vous instruire et à apprendre encore, car toute la vie ne suffit pas et quand nous serons dans l'éternité, nous allons voir que nous ne sommes que des petits enfants encore. L'homme qui connaît le plus grand savant, vous dira que plus il connaît, plus il se rend compte de ce qu'il ne connaît pas, et il s'humilie. Il y avait là cet homme, dans ceux qui étaient là autour, qui était malade. Jésus l'a vu, et son cœur est plein de compassion envers ceux qui souffrent. Et Jésus posa alors une question à tous ces spécialistes de la loi mosaïque, ces spécialistes des Écritures et ces docteurs en théologie. Il leur pose la question, est-il permis de faire un miracle le jour du sabbat? Immédiatement, chacun se regarde, attendons que l'autre donne la réponse, mais la réponse ne sort de nulle part. Tous ces gens qui sont autour de cette table, ce sont des légalistes, et ils n'ont pas l'amour du prochain dans leur cœur. Quant à voir l'amour de la parole de Dieu, il faut voir encore. Ce n'est pas parce qu'ils étudient la parole de Dieu qu'ils l'aiment. La preuve, s'ils l'aiment vraiment, ils la comprendront dans sa dimension d'amour. Mais ils ne l'ont pas saisi dans sa dimension d'amour. Ils ne l'ont saisi que dans sa dimension légaliste. Et ils étaient devenus très, très légalistes en bien des points de doctrine, particulièrement en ce qui concerne le sabbat. Ils allaient loin dans leur interprétation de l'Écriture. Alors, Jésus leur pose la question, est-il permis de guérir quelqu'un, un malade, le jour du sabbat? Personne ne lui répondit. Alors, Jésus toucha cet homme et le guérit. Après cela, Jésus leur donne une leçon. Et il leur dit, mais mes amis, vous savez très bien, vous ne m'avez pas répondu, mais écoutez, c'est la logique même. Si le jour du sabbat, votre enfant tombe dans le puits, si le jour du sabbat, votre bœuf tombe dans le puits, vous allez le retirer. Pas vrai? Alors, à plus forte raison, un homme qui est malade. Alléluia. Oh, la logique et la simplicité du message de Jésus. Ceci provoque un malaise parmi tous ces gens qui se croient très intellectuels et très religieux. Un malaise de ce que Jésus les enseigne là, eux qui n'ont même pas su répondre à sa question. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas répondre, ils avaient bien une réponse là, mais ils savaient que Jésus, ce que Jésus allait faire. Il y a un malaise parmi ses propres justes. Encore plus lorsqu'il donne une leçon d'humilité. Jésus est là autour de la table, mais c'est pour enseigner, c'est pour faire voir ce qu'est le royaume des cieux. Car il est venu établir le royaume des cieux sur la terre. Et le royaume des cieux, comme il l'a dit, commence déjà maintenant dans votre cœur. Ce n'est pas encore un royaume politique qui prend le pouvoir dans une place quelconque à Jérusalem et qui règne sur le monde et écrase les ennemis d'Israël. Non, c'est d'abord le royaume des cieux dans le cœur qui formeront ceux qui seront membres de son peuple. Nous pouvons être des citoyens du Congo, mais ceci ne veut pas dire que dans le cœur, nous sommes des vrais citoyens. Nous chantons la chanson de la majorité, mais dans le cœur, où sommes-nous? Jésus ne veut pas de l'hypocrisie. Il veut des hommes et des femmes engagés et dont la vie tout entière est déjà changée. Le royaume commence d'abord dans le cœur. Alors il donne encore une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité et il dit, quand tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place. C'était l'habitude et c'était la coutume. Chaque fois qu'il y avait une noce, un mariage, on faisait un grand banquet. Mais on observait très scrupuleusement le rang social des invités. Plus on était près, là, de ceux qui étaient les gens qui étaient en honneur, plus on était considéré comme étant de la classe supérieure. On faisait très attention au rang social. Et à la table des noces, chacun occupait une place selon son rang. Mais bien sûr, tous ces religieux, tous ces docteurs de la loi, ils se prenaient eux-mêmes comme étant l'élite même et comme étant ceux qui doivent automatiquement occuper la première place. Ils sont ambitieux. Ils veulent l'honneur. Ils veulent la gloire. Ils veulent la reconnaissance, mais Jésus leur donne une leçon. Vous cherchez la première place. Vous cherchez l'honneur. Mais j'aimerais vous dire, cherchez plutôt l'humilité. Et quand vous venez dans un tel banquet, ne venez pas vous placer forcément à la première place parce que vous avez une haute opinion de vous-même, de peur que quand le maître de la maison viendra et que quelqu'un de plus considéré que toi vienne, le maître te dise, descends là-bas pour céder ta place à celui-ci. À ce moment-là, tu auras honte devant tout le monde. Jésus dit, non, vous rentrez, vous vous asseyez à la dernière place. Et quand le maître viendra, il te verra là-bas, il dira, oh mon ami, viens plutôt ici. Et tu seras honoré devant tout le monde. Ne cherche pas les honneurs, ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas la reconnaissance, cherche plutôt l'efficacité et Dieu t'élèvera. Cherche plutôt à être à l'image de Jésus-Christ et Dieu t'élèvera. N'y avait-il pas quelqu'un de plus grand que lui ici-bas sur cette terre? Quelle leçon d'humilité ne nous a-t-il pas donnée? dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans son habillement. Il a parcouru les routes à pied de la Galilée et de la Judée. Il a servi et il a dit, le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Il donne cette leçon d'humilité là, à cette table, au milieu de ces gens. Et encore, il y ajoute. À mesure qu'il parle, il semble que le malaise est en train d'augmenter parmi tous les convives qui sont autour de la table. Et il fait remarquer encore une autre chose, que quand le grand, quand le riche invite, il devrait ouvrir ses portes aussi aux pauvres, aux aveugles, aux malheureux, et non pas seulement à ceux qui peuvent lui rendre l'appareil. On aimait faire des fêtes à toutes les occasions, des banquets, surtout quand on avait l'argent et le pouvoir de le faire. Et alors, automatiquement, on cherche les gens de sa classe, ou alors de ceux qui sont bien placés, même plus élevés, pour être honorés par leur présence. Il y a tout un calcul, toujours égocentrique. Jésus a dit non, pas comme cela. Tu peux les inviter, d'accord, mais mets aussi à ta table le boiteux. Mets à ta table l'aveugle. C'est ton frère. S'il est comme cela, ce n'est pas de ta faute. Le pauvre, il est pauvre. Ce n'est pas toujours par vice. Oui, il y a de la pauvreté qui est due au vice et au péché. Mais il y en a d'autres, non. Non. Et même celui qui est pauvre à cause de son vice et de son péché, je l'aime, dit Jésus. Ne ferme pas ta porte. Jésus enseigne en toute vérité et en toute lumière. Mais la vérité ne plaît pas à tout le monde. La lumière, tout le monde n'aime pas être éclairé par sa lumière. Et pourtant, la vérité vous affranchira, vous rendra libre, libre de l'esclavage, du péché. Imaginons quelque peu, s'il vous plaît, imaginons, essayons de nous représenter dans notre pensée l'atmosphère qui se trouve dans cette salle de banquet autour de cette table. Les consciences parlent, parce que tous se voient visés dans ce que Jésus dit. Et c'est tellement vrai, c'est tellement juste, qu'on n'a pas d'argumentation à lui opposer. Les visages sont gênés. On regarde dans son assiette, on regarde à droite, on regarde dans le vide. La conscience parle et l'appétit a disparu. Jésus enseigne la vérité. La vérité frappe. Je sais que la vérité, frères et sœurs, certaines fois, elle blesse. Elle blesse, elle fait mal. Mais Jésus guérit les blessures et il corrige. Avant de pouvoir comprendre la nécessité de la correction, il faut d'abord être réveillé à cette nécessité, n'est-ce pas? Si on est tombé dans des aberrations de tout genre, bien souvent c'est par ignorance, c'est par inadvertance, c'est par des circonstances qui nous ont menés par l'influence des autres. Dieu le sait tout cela. Et nous ne sommes même pas conscients de l'état dans lequel nous sommes. Alors, il faut quelqu'un pour nous réveiller. Et ce réveil, certaines fois, est dur. Ça blesse. Ça fait mal. Mais ce n'est pas parce que il n'aime pas. Non. Mais c'est au contraire parce qu'il aime et qu'il veut faire réfléchir celui qui manque de réflexion. Il veut le secouer. Il veut l'affranchir. Jésus enseigne la vérité et la vérité frappe. Un pharisien qui était là assis à la table, sentant la tension qu'il y avait à ce moment-là autour de cette table, il fait un effort pour essayer de détendre l'atmosphère. Et il dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Ces paroles ont une belle apparence, mais en réalité, elles ne veulent rien dire. C'est seulement une façon de remplir pieusement un vide pour essayer de détendre l'atmosphère. Vous voyez? Une tentative pour rétablir l'équilibre, pour que les gens se détendent, pour aiguiller la conversation sur autre chose, par exemple. Mais Jésus ne se laisse pas détourner du but recherché. Le but recherché, c'est le royaume des cieux qui doit commencer déjà maintenant ici-bas. Moi, je suis venu pour vous apporter la vie, pour établir le royaume des cieux. Et je prêche le royaume des cieux. Et le royaume des cieux doit d'abord commencer dans votre cœur avant de commencer et de s'établir sur la terre tout entière. Car le jour viendra où je régnerai à Jérusalem. Les hommes le contestent, c'est pas vrai? Laissez-les faire, peu importe. Israël n'a pas encore compris tout le plan de Dieu. Peu importe, son plan s'accomplira. Il règnera à Jérusalem d'éternité et en éternité. Mais ce royaume, il doit commencer d'abord dans notre cœur.
Dans les cœurs, il veut régner. Nous prions et nous disons Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a autorité. C'est quelqu'un qui commande. C'est quelqu'un qui est assis sur le trône. Si je dis « Tu es mon Seigneur », c'est-à-dire « Je le reconnais comme étant celui qui a autorité sur moi ». Tellement souvent nous disons « Seigneur », mais nous ne lui reconnaissons pas son autorité. Il veut régner dans nos cœurs. Il veut que le royaume des cieux commence en nous-mêmes. Il veut que nous marchions dans cette nouvelle marche. Le royaume des cieux, c'est une nouvelle marche. Le royaume des cieux, c'est une nouvelle éthique. Le royaume des cieux, c'est une nouvelle façon de comprendre et de vivre sa foi. Le royaume des cieux, c'est un nouveau comportement, exempt d'hypocrisie, exempt de recherche de soi, exempt de manœuvres intéressées et de double motivation. Le royaume des cieux, c'est l'élite même. Es-tu membre du royaume des cieux? Il y a deux sortes de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est à cause de ce que beaucoup de chrétiens ne vivent pas de cette vie nouvelle et ne sont pas membres du royaume des cieux que le monde, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Comme le disait l'apôtre Paul, toi qui dis de ne pas adorer les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. En disant que tu es chrétien, tu dis, je crois à la vérité, je crois à la sainteté, je crois à la pureté, je crois à la droiture, je crois à la justice. Mais, tu es injuste, tu es voleur, tu es magouilleur, tu es dans la corruption, tu es dans le mensonge, tu es dans l'impureté, tu es dans l'infidélité, et tu dis, je suis chrétien. Que disent les païens? Ils se moquent de Dieu, et ils disent, comme il y en a qui le disent déjà dans notre ville et dans notre pays, ceux qui ne croient en rien. Ils disent c'est à cause des prières de tous les aïrois qu'il y a dans notre pays tant de corruption. Voilà ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils voient les voleurs qui font des nuits de prière, les menteurs et les infidèles à leurs femmes, et les polygames, et tout cela qui vont à l'église, qui se disent chrétiens, avec la Bible sous le bras et qui mélangent tout. Et ils disent, justement, c'est à cause de ces gens-là que la malédiction est sur le pays. Et là, je dis qu'ils ont raison. Mais là où ils sont tort, c'est quand ils disent que c'est à cause de votre évangile. Non! Non! Au contraire, le vrai chrétien, le vrai enfant de Dieu, c'est un citoyen qui respecte les lois, qui respecte son prochain, qui obéit, qui est soumis, qui paye ses impôts, entendez ça, qui paye ses impôts, qui paye ses taxes, juste, droit, transparent, qui ne vit pas dans la magouille, un homme qui fait une différence dans une société et dans un pays. Je demande à Dieu que ces hommes-là, que ces femmes-là prennent des places clés et qu'ils fassent la différence dans notre société. Je le demande à Dieu. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait une centaine ou un millier, mais une poignée d'hommes avec Dieu, c'est une majorité. des hommes décidés, des femmes décidées, des gens décidés, quel que soit le prix, à aller jusqu'au bout, dans ce qui est juste, dans ce qui est droit, dans ce qui est honorable, et qu'on voit, et que la société du Congo voit, et connaisse, que les enfants de Dieu, les vrais, sont les meilleurs des citoyens. Et qu'ils font une différence. Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est dans leur cœur. Jésus a saisi l'occasion que cet homme met devant lui en parlant de ce repas pris dans le royaume des cieux, cette parole qui, dans le fond, était qu'un bouche-trou. Mais Jésus, qui est toujours alerte à saisir les occasions, il prend cette idée émise par cet homme et il dit, un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. Vous voyez, Jésus, il veut parler maintenant du royaume, des principes du royaume, des vérités qui seules peuvent changer la société. Mais il prend quelque chose de joyeux. Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. Cette même parabole dans Matthieu nous parle d'un banquet, un banquet de noces. Probablement qu'il a utilisé la même parabole dans différents contextes, c'est probable. Peu importe, c'est une fête. C'est une fête, une réjouissance. Jésus à nouveau fait de la joie la note qui domine le royaume. La joie. La joie. Croyez-moi que quand on a le royaume dans son cœur, il y a une joie que le monde ne peut nous ôter. Une joie que le monde ne peut nous ôter. Une joie immense. On n'y comprend rien, mais la joie est là. Tout va mal, mais la joie est là. On manque d'argent, mais la joie est là. On manque de nourriture, mais la joie est là. On s'en va coucher le soir sans souci. Sans souci. On dort toute la nuit. On se réveille le matin, la joie est là. Et on se demande, mais enfin, pourquoi je suis joyeux? Mais parce que je suis réconcilié avec Dieu. Mais parce que j'ai une place auprès de lui. Mais parce que je le verrai un jour. Parce que mon Père est là-haut dans la gloire. La joie est là. On m'accuse injustement. Il y a une anxiété, une réaction physique à ces choses-là. Certaines fois, même l'anxiété ou la peur ne peut pas être facilement dominée. C'est une réaction physique et charnelle. Mais cette chair est crucifiée avec Christ. Alors, on se jette à ses pieds. On dit, Seigneur, s'il te plaît, je mets mon fardeau à tes pieds. Et la joie revient. Et la paix revient. Et on s'en va. Et on répond aux accusations. Mais l'assurance et la paix dans le cœur. Pourquoi ? Qu'avons-nous à craindre ? Nous ne marchons pas dans la magouille, dans le vol, dans la corruption, dans le mensonge. Nous marchons dans la transparence. Alors, pourquoi avoir crainte de la vérité ? Pourquoi avoir crainte de la justice ? Ma conscience est pure. Mettez-moi en prison, mais je chanterai là. Car personne ne peut m'ôter ce que Dieu m'a donné. Je suis réconcilié avec lui. Il n'a jamais été morose, Jésus, quoi qu'il sache que pour lui il y avait la croix et le prix à payer pour notre rançon. Il n'a jamais été morose, il ne s'est jamais plaint, mais il a marché avec une paix et une joie profonde. Il savait qu'il apportait au monde la joie à cause du pardon, à cause de la réconciliation avec Dieu, à cause de la vie éternelle qui était un don gratuite, et encore bien plus que cela. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'il apporte au monde et que ses disciples apportent après lui. Cette bonne nouvelle n'est pas acceptée. La bonne nouvelle que ses disciples apportent jusqu'à aujourd'hui engendre la moquerie des gens de la part de ceux du monde. Cette bonne nouvelle engendre le mépris des autres. Cette bonne nouvelle engendre le rejet par les autres, le rejet par la famille, la moquerie par ceux qui ne veulent pas suivre Jésus. Le feu de la persécution. Mais c'est un feu qui purifie. Et leur souffrance n'est pas digne d'être comparée à la gloire à venir. À cette joie qu'ils donnent. Lisez dans Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. Une joie dans l'épreuve. Paradoxe. C'est vrai. C'est incompréhensible pour le monde. Et les gens qui sont loin de Dieu vont dire, ces chrétiens, ils sont fous. Ils sont fous, ils ont perdu la raison. Gloire à Dieu! Si ça, c'est perdre la raison, eh bien, je l'ai perdue. La joie complète dans les épreuves. Il y a une joie dans les épreuves. Il y a une joie même dans la souffrance. Écoutez, Hébreux 12, 2. Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. La joie qui lui était réservée a souffert la croix. Avez-vous jamais expérimenté la vraie joie? Avez-vous jamais expérimenté cette joie qui est en vous? Ce n'est pas cette joie, vous savez, comme le monde provoqué par la boisson, par les rires gras et les plaisanteries douteuses, par les danses où on se déhanche. Non, c'est pas cela. C'est quelque chose de bien mieux que cela, de bien plus glorieux que tout cela, frères et sœurs. Une joie que le monde ne peut comprendre. Avec Jésus, c'est une grande fête. C'est la joie qui ne périra jamais. Jésus dit, un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. Le royaume des cieux, c'est une fête. La fête est prête. Le maître envoie chercher les invités. À cette époque-là, lorsqu'il y avait un grand banquet de la sorte, on prévoyait la date, on faisait sa liste d'invités et on les informait. Et ceux qui venaient disaient, oui, je viens, oui, je viens. On savait à l'avance, voilà, nous aurons tant de personnes. Voilà la liste de ceux qui viendront. Et la fête était préparée avec grand soin. Quand la fête était presque prête, on envoyait les serviteurs un jour à l'avance. Allez voir tout le monde, dites-leur, ça y est, qu'ils viennent. La fête, le maître envoie dire aux invités, venez, car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Aïe, aïe, aïe. L'un vient d'acheter un champ. Il prétend qu'il doit voir ce champ. Mais cet homme n'est pas sincère. Comment peut-il acheter un champ sans l'avoir vu au préalable? Il l'a déjà vu. Il connaît cette terre. Il connaît sa valeur, puisqu'il l'a déjà acheté. Alors, ce n'est pas un homme sincère. Il n'a pas acheté ce champ sans l'avoir vu. Il veut pouvoir peut-être marcher dessus en disant, « Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. » Et pour cela, il va repousser l'invitation qui lui est offerte. Non, non. Ce n'est pas un homme juste, ce n'est pas un homme droit. Un autre vient d'acquérir 5 paires de bœufs. Pour acquérir 5 paires de bœufs, il a de l'argent. C'est probablement un fermier qui a beaucoup de terres, beaucoup de biens. Et alors, il a besoin de ses animaux pour travailler son champ. On n'est pas mécanisé à ce moment-là. On emploie des bœufs forts, on les attelle par paire à la charrue ou à la herse. Et puis, on laboure les champs et on passe la herse et on sème la semence. C'est plus lent, bien sûr, qu'aujourd'hui avec les machines mécaniques. Mais à cette époque-là, cet homme a acheté 5 paires de bœufs. Vous allez me dire qu'il a acheté ses bœufs sans même les regarder une seule fois? Allez donc! C'est un homme d'affaires, il a de l'argent, il a des terres, il a des serviteurs. Et avant d'acheter ses bœufs, il est allé les voir s'ils étaient forts, bien portants, pas trop âgés, et déterminer le prix et la valeur. Il prétend qu'il veut essayer les bœufs. Alors il les a achetés sans les essayer? Est-ce que c'est comme ça que vous achetez une voiture aujourd'hui? Bien sûr que non, c'est une voiture d'occasion. Alors vous allez la voir d'abord, vous allez soulever le capot, voir l'état général de la carrosserie, et ensuite vous allez dire, passez-moi la clé. Vous faites tourner le moteur et vous regardez d'abord si ça fume. Et si ça fume, vous dites, ce moteur, il est claqué. Il boit de l'huile. En peu de temps, il faudra renouveler le moteur, le réaliser, des dépenses, et patati et patata. Ensuite, vous regardez les freins. Bon là là, il y a tellement de courses à la pédale des freins, les garnitures sont usées. Ensuite, vous commencez Vous faites votre petit examen, vous faites sortir une bougie, la bougie est toute noire, le moteur remonte de l'huile. Etc., etc. Après ça, vous discutez, vous dites, non, c'est trop cher, je ne l'achète pas à ce prix-là, voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il y a à faire. Elle m'intéresse, mais vous devez payer, baisser le prix de la moitié. C'est pas comme ça. Vous croyez qu'en ce temps-là, ils étaient moins malins qu'aujourd'hui? Il est allé voir ses bœufs. Il les a fait marcher. Il a tâté les muscles. Il a voulu savoir à peu près l'âge. Il a ouvert la bouche du bœuf par les dents. On peut savoir à peu près l'âge. Il a fait tout ça parce qu'il le sait. Eh oui. Mais il n'est pas sincère. Il n'a pas donné son argent sans les avoir vus et testés. C'est un gros investissement que d'acheter 5 paires de bœufs. Qui doit rapporter dans ses affaires. Les affaires n'attendent pas. Les affaires, c'est toute sa vie. C'est tellement sa vie qu'il n'a même pas le temps de répondre. Il ne prend pas le temps de répondre à l'invitation. Le troisième, il prétend qu'il s'est marié. Oui, c'est vrai. Mais il prétend ne pouvoir venir sans explication. Pas valable. Au contraire, tu viens de te marier. N'est-ce pas une belle occasion que de participer à un banquet avec ta jeune épouse? Bien sûr, en Israël, à cette époque-là, il y avait une loi qui disait que quand un jeune homme s'était marié, il était exempt du service militaire pendant 1 année. S'il y avait la guerre quelque part, eh bien, il ne partait pas. Mais là, il ne s'agit pas du service militaire, il s'agit de réjouissance. Un banquet. Alors, il n'est pas sincère. Pas d'intérêt pour l'invitation. Pas d'intérêt pour ce que fait cet homme qui invite. Chacun considère ses propres affaires plus importantes que l'invitation du maître. Il y a là un véritable affront, un mépris, une insulte. N'est-ce pas ainsi que nous traitons souvent les invitations du grand roi? On traite à la légère, le royaume des cieux et les choses sacrées. On ne considère même pas l'invitation qui a été offerte. Et encore aujourd'hui, je suis un de ces serviteurs qu'il a envoyé et auquel il a donné cet ordre. Invitez-les, contraignez-les à rentrer, car il y a encore de la place dans ma maison. Mais tellement s'excuse. Oh, mais moi, j'ai pas le temps. Je viens de temps en temps écouter la parole de Dieu, mais j'ai pas le temps. Du reste, nous avons des réunions le dimanche à tel endroit. Du reste, j'ai mes affaires qui me demandent à tel autre endroit. Du reste, j'ai une réunion de famille quelque part. Du reste, toutes sortes d'excuses. Et on ne vient même pas écouter la parole de Dieu. On place les autres choses dans notre propre intérêt avant les intérêts du royaume. C'est la raison pour laquelle nous restons faibles, faibles, et que nous tombons dans la tentation continuellement, parce que nous n'avons pas fait des choses de Dieu notre priorité. Certaines fois, je suis bouleversé d'entendre et de voir la vie de certains. Il n'y a pas si longtemps, je rencontrais quelqu'un qui avait des problèmes. Et il me dit, oui, je viens à la borne, j'habite pas bien loin, et je viens assez régulièrement le dimanche. Et je demande, êtes-vous sauvé? Un regard gêné. Bon, je pense, j'espère. Êtes-vous né de nouveau enfin? Oui. Quoi donc? Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas sauvé. Vous ne connaissez rien, tout simplement parce que quand vous venez, vous n'écoutez pas et la parole ne pénètre pas dans votre cœur. Frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous devons prendre une décision. Il y a un choix. Et il y a une décision. Nous ne faisons pas de choix, nous ne faisons pas de décision, nous resterons là, nous allons entendre, mais jamais ça va pénétrer au fond du cœur. Quel malheur! Nous amassons le jugement sur nous. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a préparé, est méprisé par d'autres, pour d'autres intérêts personnels. Voilà. On place pas les choses de Dieu en priorité. On place nos intérêts personnels en priorité. Et ça, c'est une grave erreur. mon affaire, mon travail, ma famille, ma responsabilité est Dieu tout dernier, tout dernier. Comme Ésaü a méprisé ses droits d'aînesse pour un plat de lentilles. Matérialiste, profane, aveuglé. Bien souvent, nous-mêmes, nous devenons profanes, matérialistes, aveuglés. Pourquoi ? Par notre succès. Le succès n'est pas toujours le succès. Un succès personnel, un succès dans le gain, un succès dans le profit peut-être, un succès dans nos acquisitions et dans notre position peut-être, alors que les vraies valeurs sont négligées. Il y a des gens qui ont du succès dans les affaires, du succès dans les positions, du succès vis-à-vis du monde. Mais ce succès est loin d'être un véritable succès. Cela devient une faillite. Une faillite. Pourquoi ? Parce que c'est une faillite à long terme. Bien souvent, ils ont déplacé les valeurs et ils s'attachent aux valeurs périssables plutôt qu'aux valeurs impérissables. Bien souvent, rien n'amène autant de faillite que le soi-disant succès. Succès à court terme peut-être, mais faillite à long terme. On perd la juste perspective des choses et le sens spirituel de la vie. Voilà. La dimension spirituelle est la plus importante et beaucoup de gens s'attachent à la dimension matérielle. Et ils négligent la dimension spirituelle. Or, la dimension spirituelle demeure. Mais la dimension matérielle s'effrite et meurt. Le spirituel. Avec le spirituel, nous avons la partie la plus importante de l'homme. Car sans cela, il ne peut saisir le royaume des cieux. Le physique passe, le spirituel demeure. Les acquisitions auxquelles nous attachons tellement de valeur, elles passent. Mais les choses de Dieu demeurent. Mais nous leur donnons tant de priorité à ces choses matérielles. Devenons des hommes et des femmes spirituels qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dans Jean 3, 8, il est écrit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Voilà. « Né de l'Esprit, conduit par l'Esprit, né de nouveau. » C'est entrer dans les dimensions spirituelles, c'est entrer dans le royaume. Alors désormais, c'est Dieu qui conduit tout. Puissions-nous nous laisser conduire par Dieu dans toute notre vie. Frères et sœurs, que faisons-nous avec la dimension spirituelle? Le spirituel endure. Les biens n'endurent pas, mais se déprécient. Un véhicule n'endure pas, il s'use. Le corps n'endure pas, il vieillit et se corrompt. Les étoiles même n'endurent pas, elles s'éteignent. Le péché n'endure pas, il se suicide et il engendre la mort. Mais la conscience endure jusque dans l'éternité. Même celui qui s'est révolté contre Dieu, sa conscience continuera à parler pendant l'éternité. Elle sera rongée par le remords. J'ai méprisé, j'ai rejeté, alors que j'aurais pu avoir une éternité heureuse. Me voici rejeté. L'amour vrai endure dans l'éternité. L'idéal du chrétien pour la perfection, pour la sainteté, endure et connaîtra son accomplissement dans l'éternité. Le spirituel endure et demeure. Nous voulons nous attacher aux vraies valeurs. Le spirituel est devenu chair. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Le spirituel est devenu matériel afin que toi, matériel, tu deviennes spirituel. La parole est venue inviter les hommes, mais ils méprisèrent l'invitation. Ils préférèrent leurs affaires, leur commerce, ils préférèrent leur politique, leurs intérêts, ils préférèrent les choses passagères et ils méprisèrent le spirituel. Ne soyez pas de ceux-ci. Regardez le banquet. Malgré cela, la salle est remplie. Merci Seigneur. Malgré le refus de ceux qui étaient invités, la salle est remplie. Le maître envoya ses serviteurs. Allez au carrefour des routes. Allez le long des chemins. Invitez tous ceux qui sont là, les estropiés, les boiteux. Ramassez les paralytiques, les pauvres et les mendiants. Il y a encore de la place. Va dans les chemins, le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer. Remarquez ce banquet étrange. Imaginez-vous ce banquet étrange dans cette belle place, dans ce beau palais, avec ses serviteurs bien habillés, avec ses plats somptueux, de nourriture excellente. Ils sont là avec leurs infirmités. Ils sont là avec leurs cannes et leurs béquilles. Ils sont là avec leurs jambes et leurs bras inertes. La polio les a rongés depuis l'enfance. Ils n'y peuvent rien. Leurs membres sont secs et morts. Ils sont là, aveugles et borgnes. Ils sont là, muets et sourds. Ils sont là, manchots ou unijambistes. Quel spectacle! Les tables sont couvertes de nourriture. Imaginez un peu ce tableau. Est-ce logique? Pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, oui. Écoutez, ils n'ont pas demandé d'être manchots, ils n'ont pas demandé d'être paralysés, ils n'ont pas demandé d'être affligés dans leur corps, ils n'ont pas demandé de porter ces cicatrices de la vie et de la cruauté, ils n'ont pas demandé d'être tarés à cause des abus de boissons de leurs parents, ils n'ont pas demandé. Ce sont des victimes, mais Dieu ne rejette pas les victimes. Invitez-les qu'ils remplissent ma maison. Il y a encore de la place. Mais là encore, il y a une autre dimension. N'est-ce pas le tableau du banquet des noces de l'agneau que nous avons là? Quel est l'invité qui sera à sa table et qui n'aura pas eu les cicatrices de la vie marquant son corps? Frères et sœurs, le jour viendra où nous tiendrons à cette table. Mais tous ceux qui seront autour de cette table, ce n'est pas des nobles selon le critère du royaume. Ce n'est pas des beaux selon le critère du royaume. Mais ce sont des hommes et des femmes couverts de cicatrices, infligées par la vie de péché et d'ordures dans lesquelles ils étaient, mais guéris par la puissance de Dieu, changés par le pouvoir régénérateur de Golgotha, changés par celui qui invite et qui dit « Remplissez ma maison !» avec les boiteux, avec les blessés, avec les rejetés, avec les malheureux, avec les esclaves, je les rends libres. Voilà la table devant laquelle nous serons dans le royaume des cieux, car il n'y en a pas un autour de cette table qui n'aura pas porté des marques, des cicatrices de sa vie du passé. Vous-même qui êtes sauvés aujourd'hui, frères et sœurs, vous vous souvenez de ces horreurs que vous avez commises. Vous vous souvenez de ces péchés desquels vous avez honte aujourd'hui. Vous vous souvenez de ces magouilles dans lesquelles vous avez trempé. Vous vous souvenez de ces meurtres que vous avez commis et que personne ne connaît. Vous vous souvenez de tout cela, autant de cicatrices, autant de cicatrices. Mais il dit, rentre dans ma maison, rentre dans ma maison. Israël a méprisé son invitation. Ils étaient d'une bonne moralité, ils étaient d'une bonne souche. Ils avaient reçu la parole de Dieu depuis longtemps. Ils ne commettaient pas adultère et ils n'étaient pas voleurs, mais ils étaient tombés dans une tradition morte et ils ont rejeté l'invitation du grand roi. Alors il a envoyé ses serviteurs auprès des nations marquées par le péché, marquées par l'idolâtrie, marquées par la violence, marquées par toutes ces choses qui rendent nos pays sous le joug de Satan et l'occultisme. Et il a dit « Allez, allez, allez le long des routes. » Allez le long des haies, allez le long des chemins, contraignez-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Ma maison, il y a encore de la place. Ne peux-tu pas rentrer, toi, dans sa maison? tu n'y es pas encore entré. Et cet appel s'adresse à toi. Ne veux-tu pas rentrer? Son serviteur est là pour te dire, l'invitation est pour toi, quel que soit ton péché, quel que soit ton crime, il veut te faire rentrer. Les propres justes religieux, les bien élevés et instruits, les moralement parlant justes ont méprisé l'appel. Les basses classes, le petit peuple, les petits ouvriers, les méprisés, les rustres, les faibles, les estropiés, les rejetés, les pauvres, les minorités tribales, les ethniques méprisées, ethnies méprisées et rejetées. Va les chercher, les violents, les terroristes. Contrains-les d'entrer, ces gens rejetés par le monde, à cause de l'image qu'ils ont donnée de leur propre peuple ou de leur propre race. Allez les chercher, aimez-les car moi je les aime. Contraignez-les de rentrer, les étrangers, ceux qui sont différents. Différents, il y a encore de la place. Ça c'est la bonne nouvelle. Il y a de la place pour toi qui n'es pas encore entré. Pourquoi donc les gens bien, les gens de classe bien élevés ont-ils oublié? Ont-ils oublié l'amour du prochain? Pourquoi? Ils ne connaissent que l'amour de soi-même. Ils ne connaissent que la propre justice. Ils sont devenus matérialistes, égoïstes. Ils ont tout oublié. Ils ont négligé le spirituel. Voilà la tragédie. Oublier le spirituel. Dieu veut bien que tu sois bien éduqué. Dieu veut bien que tu sois poli. Dieu veut bien que tu fasses partie d'une élite dans l'éthique, dans la politesse, dans la morale. Mais ne néglige pas la dimension spirituelle. Et c'est là l'erreur de beaucoup de gens bien, entre guillemets, la dimension spirituelle. Ils ont perdu la dimension éternelle qui est une dimension spirituelle.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.